Ça va mieux, Jacques Lavergne, bonsoir. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Pour commenter cette actualité, eh bien nous sommes là tous les trois, comme d'habitude, Jean-François Mignard de la Ligue des droits de l'homme, Pierre Larouille, économiste, essayiste et tant d'autres choses, et moi-même. Bonsoir à tous, nous allons commencer. Bon, on a quelques sujets à traiter, au moins trois, peut-être quatre, si on n'est pas trop abondant, et puis nos chroniques habituelles, le ça va mieux, et la séquence culturelle. On va commencer par le premier sujet, ce qui me semble assez logique finalement, que j'ai intitulé « Macron, les réformes et l'agitation sociale ». Donc le président réforme, il réforme même tout ce qu'il peut, le code du travail, la SNCF, la justice, l'université, la formation professionnelle, les institutions, l'accueil des réfugiés, puis même Notre-Dame-des-Landes, puisqu'il a quand même un peu réformé le projet initial, et ce n'est certainement pas fini. Ce faisant, il paraît être un président aussi volontariste que novateur, et c'est exact, ben, pas vraiment, parce que d'abord, il n'est pas le premier à le faire, et si l'on regarde l'action de son prédécesseur, qui ne fut pourtant pas un grand agitateur d'idées, ni même un foudre de guerre en matière d'action, on ne peut que remarquer que celui-ci avait fait quatre réformes du marché du travail, une de la SNCF et une de la formation professionnelle, c'est dire. Auparavant, nous avons connu des réformes des retraites et puis la fameuse décentralisation, on remonte un peu loin, mais quand même, qui avait bouleversé profondément l'organisation du pays. Pour autant, toutes ces réformes n'ont pas véritablement amélioré l'état de notre pays, si l'on en juge par le taux du chômage, notre balance du commerce extérieur, l'état de l'école qui ne joue pas son rôle au niveau de l'éducation, des inégalités, ou de l'hôpital qui est en déshérence. Et bien sûr, vous le comprenez, ce ne sont là que quelques exemples. Alors où va Macron en multipliant les réformes et donc en suscitant des oppositions, parfois violentes, dans tous les secteurs cités ? Que penser des projets du président, de sa méthode dans le droit fil de la tradition verticale où tout se décide d'en haut sans véritablement de concertation avec les intéressés, des réformes faites par des ministres dont la majorité sont non pas des politiques mais des technocrates, et puis une majorité bien sûr aux ordres, et peut-être un peu chez Macron l'absence de récit, donc le garçon est peut-être un peu sec. Alors peut-être que ce Macron, dont on perçoit mal finalement la finalité de la présidence, ne nous fait pas ou plus rêver, et que donc beaucoup, après s'être un temps interrogé sur ce président, que peu connaissaient, en lui accordant quelques crédits pour voir et juger, eh bien tout cela risque peut-être de se détacher à présent de lui sur toutes ces questions, et je n'ai fait que les effleurer très rapidement pour ne pas entamer votre temps et votre crédit de parole sur toutes ces questions. Qui veut commencer ? Alors, on se fait des politesses et finalement, c'est Jean-François qui est élu.
Allez, je vais y aller, je suis volontaire. J'ai été un peu surpris, effectivement. Je m'attendais à intervenir un peu plus tard, mais il se vérifie que la concision ne gâte en rien la qualité de l'intervention. Voilà. On en parle régulièrement, hein, c'est ce qui est normal d'ailleurs, hein, de l'action du président de la République et de sa majorité. Et. Il fut un temps où j'avais dit le président de la République est en train de manger son pain blanc. Voilà. Et puis à un moment donné, vient le temps du pain noir. Je ne suis pas sûr que nous n'y sommes pas au pain noir. Voilà. La guerre est claire. La présence sur tous les fronts. Le discours qui est le discours double, à tiroir.
Pour l'instant, Notre-Dame-des-Landes, si je peux me permettre, c'est le paintball. Hein.
Oui, alors bon, sur Notre-Dame-des-Landes, on pourra peut-être y revenir dessus. Mais c'est en train aussi de résister un peu partout, cette affaire-là. Hein, je suis toujours assez perplexe sur le discours qui serait celui sur la convergence des luttes.
Qui n'existe pas aujourd'hui, on ne converge pas.
Que la sœur Anne de la vigie de l'extrême gauche ne voit pas venir dans l'herbe qui poudroie, enfin, etc., etc. Mais il y a quand même On est en train de rentrer, Macron est en train de rentrer dans le dur. Et alors, il n'y a pas de convergence de lutte, pour autant, ça résiste plus que ce qui pouvait, ce qu'on pouvait l'imaginer jusqu'à présent. C'est le prix à payer, je pense, effectivement, d'ouvrir tous les fronts.
Ça résiste, mais ça ne bouleverse pas trop pour l'instant.
Non,
il y a
alors, résistance. C'est vrai. Heureusement, au passage, quand même, parce que qu'est-ce qu'on attend ou qu'est-ce qu'on espère de ce qui serait un bouleversement ? De la violence sociale plus. Pour le moment, les acteurs sociaux jouent un minimum le jeu. Mais on est peut-être en train d'arriver là, par exemple, en venant ici, j'ai entendu du côté des cheminots l'hypothèse d'une grève qui serait la grève des billets. Hein, ce qui, de mon point de vue, c'est-à-dire, en gros, on ne fait pas payer les usagers. C'est une avec toute une série de commentaires sur l'illégalité de ce que ça peut représenter, comme si la grève a toujours été quelque chose de parfaitement légal et compris dans la Constitution ou dans les pratiques qui sont les pratiques sociales. Voilà. Faudrait pas que ce scénario débouche sur des victoires qui sont des victoires politiquement à la Pyrrhus, qui fassent que ça laisse derrière une chaîne de ruines au niveau social et au niveau politique. Hein, j'entends autour de moi des gens qui disent alors, c'est le dépit, et en même temps, attention à ça, c'est vrai qu'il fallait faire un barrage à Marine. Mais est-ce que c'est le prix politique et social à payer ? Ce qui est la vraie question politique pour pas mal de gens aujourd'hui quand même. Voilà.
Allez, Pierre Larouille.
Oui, je suppose que c'est dû au fait que l'édito était plus sec, plus condensé que d'habitude. J'ai entendu des réformes. Il y a des trucs où je n'ai pas entendu, peut-être que je n'étais pas assez concentré. On n'a pas parlé de l'Europe.
Non, d'abord, mais on va y venir.
Parce que c'est quand même un vrai sujet.
Parce qu'il y a quand même
un type, pour l'instant, là, qui vient sur le devant de la scène. En plus, on me susurre qu'il pense à Canfin pour diriger, pour être tête de liste d'En Marche, l'écologiste. Donc, voilà, on ne peut pas quand même gommer qu'en dehors de tout ce dont on parle et où ça résiste, il y a aussi l'Europe.
Où ça résiste sacrément, quand même.
Mais
Pierre, il y a l'Europe, il est allé au Parlement européen, on ne peut pas dire qu'il ait fait quand même un tabac.
Non, mais je n'ai pas dit qu'il faisait un tabac. Je dis que ce président s'occupe aussi de choses qui nous intéressent bigrement aussi. Il n'y a pas que Notre-Dame-des-Landes.
Non, il s'occupe de choses qui nous intéressent. Ce qui serait peut-être bien, c'est qu'il nous y intéresse.
Non, mais je vais y venir, Jacques. je vois qu'on n'évoque pas l'école parce que. Blanquer a l'air d'avoir fait
On ne fait que commencer, Pierre. On n'a pas de procès d'intention.
Non, on ne fait que commencer.
Dans la guerre éclair sur tous les fronts, on pourrait évoquer effectivement des tas de choses.
Je vois que le fait qu'il ait évoqué ce devant quoi et Hollande et Sarkozy avaient renoncé, c'est-à-dire le cinquième risque qu'il a annoncé, même si ça pose des problèmes de financement que nous connaissons.
Oui.
En tout cas, il remet ce dossier qui est très important pour des millions de Français. Je constate que quand même sur l'hôpital, il est en train de prendre des positions assez courageuses et qui effectivement risquent d'être conflictuelles.
Sur l'hôpital, surtout, ce qu'il faut changer, c'est le système de tarification et mettre de l'argent dans la machine.
Nous sommes d'accord. Enfin, oui.
Et ça, quand même.
Oui.
C'est vrai qu'on ne parle pas, par exemple, de la loi Collomb sur l'immigration non plus.
C'est vrai qu'on ne parle pas non plus, effectivement, de
l'intégration de l'état d'urgence dans les lois ordinaires. C'est vrai qu'on ne parle pas de la réforme constitutionnelle qui arrive.
On va
effectivement va poser un certain nombre de choses qui peuvent apparaître comme des résistances au changement. On connaît la musique.
On ne parle pas de la participation. On ne parle pas du rapport Villani sur l'intelligence artificielle. Bref. Il faut quand même À Nenon, c'est effectivement, le chantier est énorme, ça bouscule de tous les côtés. Je voudrais revenir en arrière, puisque c'est quelque chose que j'ai commis avant, bien avant l'élection et quelques mois avant, où je me demandais, comme beaucoup d'entre nous, qui pouvait être président dans les 6 mois ou 1 an. Et c'était l'époque où Fillon tenait la corde. Et je me souviens que j'avais une...
surtout la bourse.
Et je vous laisse
ses cordons.
La responsabilité du goudron et des plumes. Mais à l'époque, je voyais des Français hésiter entre le bouc émissaire façon Marine Le Pen ou la rédemption et la culpabilité façon Fillon. L'impression que j'ai, c'est que les Français n'ont pas fait ce choix. Ils ont fait le choix d'un petit saut dans l'inconnu et en tout cas d'un choix de la transformation. Et aujourd'hui, ils sont piégés entre deux tendances. C'est qu'il leur reste malgré tout un fond de logique de rédemption et de culpabilité. Et c'est ce qui fait que malgré tout, ils acceptent et ils se soumettent un petit peu aux réformes. Parce que je crois qu'au fond d'eux-mêmes, ils se disent « il faut quand même que ça bouge ». Et de l'autre côté, le véritable tournant actuel politique, ça s'appelle l'injustice. Parce que je crois que Macron est plus attaqué sur le fait que les gens ressentent ces réformes comme injustes, plus que sur le fait qu'il faille faire des réformes. Alors comment on traite ce problème ? Eh bien, ce problème, il est, quelles que soient les luttes aujourd'hui qui se mènent, le problème, c'est qu'on n'entend pas un discours de la justice un tout petit peu cohérent, réellement s'opposer. Une fois qu'on a dit, eh ben ouais, vous avez fait l'ISF, très bien, très bien, très bien. On peut passer 2 ans là-dessus. Néanmoins, aujourd'hui, c'est vrai que vous avez vu le sondage qui est sorti hier avec Wauquiez à 8%. Je ne sais pas si le PS était mesuré.
Il était mesurable.
Hamon ne l'était pas. Donc, non, je plaisante bien sûr parce que ces gens sont en train de, j'espère, de reconstruire. Mais vous voyez bien qu'il n'existe pas de discours de ce qui est la faille actuelle de cette problématique de réforme. C'est qu'est-ce qu'on dit pour réformer et être juste.
Jean-François Mignard. Ouais,
moi, je partage effectivement le fait qu'il y a... Et je trouve ça plutôt positif que les gens estiment effectivement qu'il y a des réformes à faire. Et comme d'habitude, j'ai tendance à m'opposer à un faux, à l'idée que la France serait un pays dans lequel on ne réforme pas. Enfin, voilà, je veux dire, quand on regarde, on met à plat ce qui s'est passé depuis 50 ans... En France, ça réforme autant, si ce n'est davantage, que dans d'autres pays. Donc voilà. Et donc, à cet égard-là, au-delà du discours quand même de la doxa, qui est de dire, voilà, les gens sont frileux et sont et répugnent effectivement à la réforme. Voilà. Alors par contre, qui est le sentiment d'injustice, effectivement, ça je partage aussi. C'est là où c'est terrible. Hein, c'est là où c'est terrible. C'est-à-dire que il n'y a pas de débouché politique aujourd'hui à l'heure actuelle à autre chose que de la colère par rapport à quelque chose qui est vécu comme de l'injustice. Et quand même, et ça aussi c'est dangereux, à travers ces réformes-là, la manière dont ces réformes sont menées, le discours qui est tenu, qui est, comment dire, un peu agaçant, qui est que, bien entendu, les gens, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils sont contre. La nécessité de la réforme. Or, je pense que, encore une fois, je pense que la nécessité de la réforme, elle est relativement partagée, mais c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord. Avec ce sentiment qui serait que ces personnes-là dont on reconnaît la capacité à pouvoir mettre un papier dans l'urne pour désigner quelqu'un qui est censé les diriger, ce dont, d'ailleurs, moi, je suis un peu. Quand on dit les Français ont choisi, voilà, d'accord. Et une fois ça fait, hein, ils auraient à appliquer ou à se soumettre à la pédagogie ou à la communication, qui est la communication dominante. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et je pense que c'est ça qui représente le dur, hein, c'est-à-dire que les. Je parle là des personnes qui sont les personnes, comment dire. L'étape derrière, ça va être, alors je prends des risques là-dessus par rapport à la question qui est la question des réformes, ça va être les gens, et peut-être que ça va arriver assez vite, c'est les gens qui, y compris, vont être déçus des réformes faites, hein, voire du discours qui sous-tend les réformes qui sont les réformes faites. Hein. On libéralise les...
Madame Irma.
Allez, chiche.
Allez,
chiche.
Non, mais
Mais on est obligé de parler un peu d'avenir si on veut regarder l'analyse.
Absolument, Jean-François, si je peux me permettre de...
Parce que en fait, merci pour
Jean-François. J'ai lancé la balle du côté de l'injustice. Je sais que ça marche à fond, ça.
Oui.
Je crois que c'est pas le, en fait, c'est le mot qu'on envoie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Il y a autre chose, c'est un sentiment d'abandon. C'est un sentiment qu'on est dans une dynamique où on sera du côté des perdants et on est dans un profond ressentiment. Et là où je pense que la politique de Macron, mais j'attends de voir ce qu'il va dire dans quelques jours, justement avec la réforme institutionnelle et sur laquelle on reviendra. Macron a un problème avec l'interstitiel. Il voit bien où est Jupiter, l'État. Il voit de temps en temps des métropoles. Moi, je n'adhère pas spécialement à l'idée que Singapour soit le modèle absolu de ce que va être la métropole concurrentielle de demain.
Ça ne me fait pas rêver non plus.
Voilà, je ne suis pas sûr que la concentration soit le modèle qui s'imposera. J'espère que un modèle productif écologique arrivera un peu à contrer ça. Toujours est-il que cet interstitiel, ce que l'on dit là, ces centres-villes, des centres-bourgs, pardon, ces zones rurales, ces gens qui ne sentent qui perdent des repères d'un côté et qui voient bien qu'il y a des mécaniques modernes qui se mettent en place et dont ils pensent qu'ils ne seront pas dans le cortège des élus qui vont en profiter. Et donc, il y a, au-delà de la réforme même, il y a une incapacité à se projeter, puisque je suis moi aussi Madame Irma, en l'occurrence, mais on attend beaucoup, et je crois que ça dira beaucoup, de cette logique de l'interstitiel. Encore une fois, depuis le début, Macron a un souci, c'est qu'il a un axe vertical jupitérien sur lequel, malgré tout, il a un discours, on ne peut pas dire que les Français n'aient pas senti un peu de fierté qu'il a redonné. On le voit aussi très pragmatique, le problème c'est que ces deux axes ne collent pas. Il y a de l'espace, et cet espace il n'est pas rempli, ou il est rempli par un sentiment d'injustice, de ressentiment, encore une fois, ou d'abandon.
Qu'est-ce qu'il faut penser ? Revenons sur la SNCF, qui est quand même le sujet du jour. On a une négociation et par ailleurs, on vote une loi. Alors, il n'a pas de mal à faire voter la loi. Il est hyper majoritaire et il a des députés qui sont à la botte. Personne ne moufte.
Ils n'ont même pas besoin de se déplacer mais pour la voter, physiquement, je veux dire.
Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser ?
Il n'y a pas de train. Ils ne peuvent pas se déplacer.
Oh ! Ils l'ont à gratuité. Ils l'avaient, en tout cas. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ça ? On continue à négocier avec des gens. Le problème est très loin d'être réglé parce qu'il est extrêmement compliqué. Il est multiforme ou protéiforme, comme disent les gens qui parlent bien. Et par là, on fait passer une loi, puis bon, on tourne la page, on dit ça y est, c'est fini. C'est quand même une drôle de manière de gouverner, ça.
Mais les gens qui ne sont pas d'accord sont des gens qui n'ont pas compris l'intérêt de ces choses-là. Je m'excuse, mais c'est quand même ça que j'entends, avec derrière le sale boulot fait quand même... Je dois le dire, fait l'impression que j'ai. Une partie du sale boulot, quand je dis le sale boulot, c'est parce que les pédagogues sont toujours des gens extrêmement attentifs pour les jeunes de qui s'occupent. Hein, cela, voilà, on ne peut pas leur. Mais le sale boulot est en fait en partie par les médias, de ce point de vue-là. C'est-à-dire, ça, c'est le côté, les nantis privilégiés qui, etc., etc.
On a dépassé ce stade.
Pas plus tard qu'aujourd'hui, nous avons même eu droit. Alors c'est anecdotique, mais je trouve que là aussi il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais on en reparlera. Hein, on a même eu droit aux pèlerins à Lourdes qui sont bloqués pour le pèlerinage. Alors c'est vrai.
C'est là qu'ils devraient se poser justement des questions. Hein,
c'est vrai qu'il n'y a pas de miracle. Enfin, il y a peu de miracles, mais
si les trains redémarraient, ça en serait un peu.
La couverture que j'ai trouvée, moi, un peu équilibrée, c'est annexe, mais c'est important dans les rapports de force aujourd'hui qu'il y a autour de ces questions-là, qui a été un petit peu équilibrée à une période aujourd'hui est en train de se lâcher de ce point de vue. Ce qui, par ailleurs, est effectivement très compliqué. Hein. Et on retrouve ces espèces d'oppositions qui sont des oppositions qui permettent d'ailleurs au Jupiter qui surplombe ce genre de choses, je vous les perds la nation, entre, entre les prises en otage hein, et les méchants privilégiés qui défendent leur bout de gras. Voilà.
Il nous dit qu'ils réforment, très bien, réformer, pourquoi pas, mais quelle réforme, dans quel but, pour aller où? Et ça, moi, je trouve qu'il ne le dit pas. Il n'y a pas de récit chez Macron. C'est un très bon organisateur, le garçon est intelligent, il est cultivé, il a du caractère, il a une paire de coronets aussi, on ne peut pas lui retirer, il y va, mais on va où? On va où avec lui, là? Il ne nous le dit pas où on va, il n'y a pas de récit.
Oui, c'est un petit peu ce que je décrivais tout à l'heure en disant que ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Effectivement, il y a deux Macron, le pragmatique et Jupiter. Et il y a un problème de récit, d'esprit des lieux, comme nous dirait Stéphane Rosès. Il y a quelque chose, effectivement, qui manque, qui est le récit que le pragmatisme ne peut pas envoyer et sur lequel Jupiter est un peu loin. Donc, effectivement, je crois qu'il y a là un besoin de récit. C'est pour ça que je parlais de l'Europe aussi, d'ailleurs, parce que je me demande si le récit macronien ne va pas passer par l'Europe, à un moment donné.
Je vais jouer un petit peu à contre-emploi, c'est pas ça qui me dérange. Je pense qu'il n'y a pas de récit, Macron ne porte pas de récit, parce que je pense qu'il va falloir faire avec le fait qu'il n'y a plus de récit.
C'est peut-être bien le problème.
Ah oui, ça c'est le problème, mais il va falloir faire comme ça. On peut pas. Allez, je vais faire un peu de provocation là aussi. On peut pas croire au Père Noël toute sa vie. Il faut à un moment donné prendre en compte la réalité telle qu'elle est. Et on est arrivé peut-être à un moment dans lequel les grands récits. Moi, je suis toujours quand même très méfiant sur les grands récits. Ça endort les masses populaires, comme on disait à une certaine époque. Et quand ça les endort pas, ça remplit les charniers. Voilà.
Moi, j'ai déjà, je crois, parlé un peu de ça ici. Je ne suis pas certain. C'est pour ça que je parlais du rapport Villani. Je ne sais pas si on mesure bien le débat philosophique et donc politique que ceci nous pose. Je crois réellement qu'on est là entre les neurosciences, l'intelligence artificielle, et ce qu'il en serait, comme dirait Serge Peille, de la poésie ou de la psychanalyse. C'est dans quel monde on veut vivre, dans quel monde on pense qu'on peut vivre demain. L'intelligence artificielle va nous obliger à reposer quand même le problème de l'humain, du sujet et donc de l'enjeu politique. Et je ne pense pas, contrairement à Jean-François Mignard, que le récit est terminé, parce que ce récit, à mon sens, commence. Le problème, c'est que c'est un récit, je ne sais pas s'il va se dérouler en 3D ou en bande dessinée, mais il va falloir aller vite, parce que nous ne sommes pas habitués à affronter les contraintes d'une technologie qui va à cette vitesse-là. Et je crois qu'on doit aborder le problème de l'intimité numérique et de Facebook juste après. On est bien dans ce cadre-là, où c'est un énorme bouleversement, mais on voit bien aussi tous les potentiels incroyables. Je crois très sincèrement qu'on va bâtir les modèles écologiques aussi avec l'intelligence artificielle.
Oui, donc, Pierre, on est bien d'accord là-dessus. Et là, il y a là matière à récit, il y a là matière aussi peut-être à faire rêver les gens, à avoir une dynamique, à les fédérer. Mais pour autant, il faut quand même le leur dire. Aujourd'hui, on ne dit pas ce genre de choses. On ne dit pas. Macron ne dit pas. Et ce n'est pas ses ministres qui sont souvent des anciens fonctionnaires, parce que celle qui aujourd'hui s'occupe de la SNCF, elle était quand même cadre à la SNCF, elle était dans la prospective, je ne sais plus quel poste. Elle porte une responsabilité sur l'état de la SNCF aujourd'hui. Parce que l'état de la SNCF, ce n'est pas le statut des cheminots. Certes, il nous coûte 4% de plus tous les ans sur la masse salariale, ce n'est pas rien. Mais ce n'est pas ça le problème aujourd'hui. Il est ailleurs.
Je crois que les politiques ont plus de.
Ah ben tout à fait.
Et d'ailleurs, on est très injuste de dire l'État.
Non, mais il y a les collectivités parce que, locales.
Voilà, parce que alors, le nombre d'élus locaux oui. qui ont fait des pieds et des mains
pour avoir leur gare, leur TGV, leur truc, leur machin.
Voilà.
C'est l'état des membres, ça.
Oui, mais enfin, il faut. Parce que quand on parle de décentralisation, on voit que le problème demeure et que ça ne résout pas ce genre de problème.
Quand on achète, par exemple, à Alstom des trains pour éponger les problèmes d'Alstom et qu'on fait rouler des TGV, qu'on fait rouler à vitesse normale, enfin, on nous prend un peu quand même pour des cons, il faut bien dire le mot. Hein.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais le discours qui le fait... Moi, je suis assez sensible au discours que j'entends autour de moi, parce que j'en fréquente peut-être pas mal, parce que professionnellement, c'était mon métier d'en fréquenter, de ce qu'on appelle, entre guillemets, la jeunesse. Hein, le grand récit,
comme l'Église, alors. C'est ce qui vous rapproche, oui. Jean-François Millard, l'Église et vous. Ce sont les jeunes.
La jeunesse, pas la, à l'occurrence, pas l'enfance. Mais c'est comme, ce qui est proposé aujourd'hui, et d'ailleurs qui marche, c'est là où je dis que le retour de Balenciaga risque d'être terrible, c'est le vieux refrain du « enrichissez-vous dans un cadre qui est un cadre de liberté qui fait que vous vous accomplirez ».
Si vous convoquez Guizot en plus, va-t-on.
Oui, voilà. Et c'est quand même ça qui est mis en avant. Et en gros, quand même, ce qu'il s'agit de démanteler, c'est une certaine organisation sociale qui est, si ce n'est aux antipodes, du moins très très différente de ce genre de choses-là. Et encore une fois, alors le récit tel qu'il est proposé, moi je pense effectivement c'est celui-là, c'est celui effectivement de la liberté individuelle et du fait de pouvoir, moi que j'y discute aujourd'hui, enfin, je vois aujourd'hui autour de moi une certaine quantité de jeunes qui prennent des risques dans la précarité qui leur est proposée. Hein, au niveau de leur métier, au niveau du modèle économique dans lequel ils s'inscrivent, et qui vont à terme, très rapidement, être extrêmement marqué par ce que ça va donner. Voilà. Après, mais ça vaudrait peut-être le coup aussi de faire une émission là-dessus, est-ce que l'alternative à ça, c'est un grand roman, hein, c'est une téléologie partagée, c'est un avenir sur lequel il nous faudrait rêver. Moi, je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas sûr. Voilà. Et dernier truc, et je pense que on est, je suis très confiant, je suis peut-être très optimiste, et je pense qu'on est capable, d'une certaine manière, de s'en passer, comme on peut se passer du tabac, de l'alcool,
ou de la religion, non, bientôt, vous allez nous dire ça aussi.
Oui, éventuellement, de la religion. Mais
ça devient plus délicat.
C'est pas gagné. Non. Mais, non. Oui, ce récit, moi, je pense qu'effectivement, tous ces sujets n'ont pas atterri, mais on voit bien au travers de la réforme, de la transformation numérique, les problèmes d'autonomie, d'hétéronomie, c'est comment on se constitue. Et on voit bien que là, il y a effectivement un récit qui doit s'écrire, un récit pour le coup de la justice entre tous les parties prenantes du sujet, entre tous les territoires qui portent ces sujets, parce que de deux choses l'une, ou bien on est capable d'inventer un modèle européen qui fasse que, encore une fois, on puisse être dans la compétition internationale sans avoir une logique tyrannique de la concentration. Et là, tout à coup, cette idée d'autonomie et d'hétéronomie peut devenir très intéressante. Enfin, à quel moment on se lance réellement dans le télétravail ? À quel moment on se lance réellement dans une vision de l'agriculture et de la diététique un tout petit peu plus rationnelle. En fait, on connaît tous ces sujets. Mais simplement, ce récit, il existe. Il est très simplement comment, au travers des technologies qu'on a en face de nous, on essaie de faire un bond vers plus d'humanisme, ou alors on perd le match.
Oui, oui. Dernier élément, quelques éléments de réponse, tout en modestie. Je pense qu'on joue ce match-là à partir du moment donné où on arrête de se mettre en concurrence avec des gens qui ne le jouent pas et qui sont sur autre chose. Sinon, mais on a le discours qui est extrêmement habituel, qui est de dire de toute façon, on ne peut pas le faire, on ne peut pas se le permettre. Nous sommes dans une économie ouverte, mondialisée, dans laquelle les choses sont en concurrence. C'est quand même ça qui est systématiquement mis en avant dès qu'effectivement on est en train de parler de quelque chose d'autre que d'être le plus performant et le plus rentable.
Allez, passons justement, on va continuer à parler d'un exemple de cette mondialisation et du dérapage de Facebook, qui amène à se poser la question, faut-il reprendre le contrôle d'Internet ? Alors, vous le savez, le scandale Cambridge Analytica a mis le feu aux poudres. Cabinet de conseil qui avait travaillé pour la campagne de Trump, mais qui avait eu accès aux données personnelles à travers Facebook de millions d'utilisateurs de ce réseau social. On parle quand même de 87 millions de personnes, excusez-moi du peu. Des journaux américains et britanniques ont révélé l'affaire le 17 mars. Le réseau social, pris de court, mais certainement très ennuyé, pour ne pas dire autre chose, par ces révélations gênantes, a mis beaucoup de temps à réagir, notamment par son dirigeant Mark Zuckerberg, qui a exclu d'entrée toute démission de sa part. Certains, et surtout aux USA, se sont interrogés sur le point de savoir si l'État ne devait pas, d'une part, mieux protéger les données personnelles, à l'instar de ce que fait l'Europe, avec son règlement, je vous rappelle, son règlement sur la protection des données, qui va entrer en vigueur le 25 mai, et d'autre part, adopter une position encore plus radicale en, tout simplement, démantelant les GAFA, notamment Google, Facebook ou Amazon, qui irait ou pourrait aller à l'encontre des lois du capitalisme. Alors, c'est une opération que les Américains connaissent parce qu'ils l'ont déjà réalisée dans le passé, puisqu'ils ont démantelé la Standard Oil, reprendre en anglais, un trust, qui était aussi puissante durant, alors ça nous ramène loin, mais quand même, durant la première décennie du XXe siècle que le sont aujourd'hui tous ces géants de la Silicon Valley. Des entreprises surpuissantes, notamment sur le plan économique, et accusées de pratiquer, parce qu'ils ne la préparent pas, il y a longtemps que c'est fait, l'évasion fiscale à grande échelle, sans parler bien sûr des risques qu'elles font courir aux libertés publiques et individuelles. Sur cette question, Jean-François Mignard.
Juste un correctif. J'imagine que vous voulez parler de l'évasion fiscale à plus grande échelle.
Oui, alors, ça se pratique déjà, mais bon, eux, ils sont à l'échelle, à la taille de leur entreprise. Hein. On parle en milliards. Pierre Larouille.
Sur ce sujet qui est évidemment un scandale, je suis en même temps scandalisé, mais je me demande si on regarde bien les choses, parce qu'on a l'impression de découvrir un truc formidable. Sincèrement, en dehors d'un peu d'optimisation par le big data, c'est une démarche extrêmement connue, extrêmement précise. Alors effectivement, tout à coup, on trouve qu'il y a des pontages entre le big data des réseaux sociaux et la meilleure performance de ces campagnes ciblées sur des poches électorales. Mais très sincèrement, on sait bien qu'une élection se joue sur quelques pourcents, que tout l'impact de communication et de marketing est porté sur ces zones-là. Et soyons clairs, en dehors de Facebook, le problème, il est que les algorithmes tournent, donnent de l'intelligence à ces data. Et je pense que la source de Facebook est très importante, mais à mon sens, il y en a des tas d'autres. Donc ce qui est en cause, c'est simplement la technologie du numérique. Vouloir... Je ne dis pas qu'on ne peut rien faire face à ça et qu'il ne faut rien faire.
C'est ce que j'allais vous dire. Mais
il ne faut peut-être pas être trop naïf et croire subitement qu'on gagne une élection avec les données de Facebook.
Le problème, ce n'est pas tant, le data et les algorithmes que du contrôle politique sur le data et les algorithmes, en l'occurrence, dans lequel on a quand même l'impression, alors que j'ai dit, oh, c'est toujours agaçant ça, mais j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il est partagé, hein, que c'est un choix quasi politique de ne pas avoir de contrôle là-dessus, des politiques en place. Hein,
peut-être n'ont-ils pas encore pris la dimension des dérapages qui peuvent se produire.
Je ne sais pas ce qui est le plus inquiétant dans les hypothèses. Oui, voilà. Mais si les gens qui sont en responsabilité ne mesurent pas la réalité de ce que ça peut être, parce que je partage là aussi, décidément il faut qu'on se surveille, le fait que rien de neuf sous le soleil, et il y a des organisations, il y a des collectifs qui n'arrêtent pas de tirer la sonnette d'alarme depuis un moment sur cette question. Et c'est alors ça apparaît. On avait un petit bout d'échange pour rien ne cacher aux auditeurs avant de l'émission. On avait un petit bout d'échange sur la vidéosurveillance, qui est pas autre chose que la question de traitement de données là aussi. Hein. C'est exactement le même problème. Et ce qui est en train de se passer très tranquillement et de manière extrêmement pateline dans notre belle ville de Toulouse. Alors on est à l'autre bout. C'est vraiment pas l'échelle de Facebook, hein, à l'échelle mondiale. Et où, bon an, mal an, on est en train, effectivement, de mettre sous surveillance et avec aucune garantie sur les traitements de données, là, avec une bénédiction absolument fondamentale des politiques. Voilà. Alors, bon, au passage, moi, ce que je trouverais d'intéressant...
Bon, allez, racontez l'anecdote, parce que pour les Toulousains, elle vaut quand même son pesant d'or.
Donc, oui, aujourd'hui, les Toulousains ne le savent pas encore, mais effectivement, à certains endroits de la ville, et ça va certainement s'étendre, hein, ils sont de plus en plus sous la surveillance de caméras, qui seront équipés de haut-parleurs et qui leur rappelleront éventuellement les écarts de conduite qu'ils peuvent avoir dans l'espace, qui est l'espace public. Tout ça, décision étant prise dans l'opacité la plus absolue et donc dans une évolution qui n'est jamais inscrite dans un débat qui est un débat démocratique, alors qu'on pourrait, ce serait le moins, espérer qu'on débatte de ce genre de choses qui nous concernent directement. Donc on baigne effectivement dans ce genre de choses. Voilà. Alors, ce que je trouverais d'intéressant au passage, c'est quand même que le président de Facebook, le directeur de Facebook, vienne faire un petit tour en Europe pour passer devant le Parlement européen. Quand même, ce serait intéressant, plutôt que de se limiter à passer uniquement devant une commission qui est une commission du Congrès américain. Parce que là aussi, qu'en est-il du contrôle? Par exemple, on parlait tout à l'heure effectivement de la place de l'Europe, qu'elle peut avoir sur des choses qui sont...
Alors l'Europe, je le disais tout à l'heure, elle a quand même avancé plus que les Américains, puisqu'ils regardent notre règlement sur la protection des données, ce serait bien qu'ils viennent. Et les Américains, ils disent quand même, là, les Européens ont été meilleurs que nous, ils sont en avance. Les Américains ont envie, et ça va rejoindre ce que disait Jean-François Mignard, que le politique reprenne un peu la main sur ces grandes entités. On sait ce qu'elles sont capables de faire. Peut-être qu'on sait un peu les endormir, parce qu'ils nous rendent aussi d'éminents services. On y est tous, sur Facebook, on l'utilise tous les jours, etc.
C'est extrêmement commode.
Et donc, on s'est habitué à vivre avec. Mais peut-être qu'on n'a pas mesuré les dangers totalement, et peut-être qu'on va se rendre compte maintenant. Est-ce que le jeu, ça va être la question, est-ce que le jeu, on va la changer? Il y a déjà des gens, pas majoritaires, mais qui commencent à dire, moi, Facebook, j'en sors. Parce que je n'ai pas envie de rentrer dans ce système. Et ça peut... L'action, c'est quand même aussi symptomatique. L'action de Facebook a très rapidement dévissé. Les Américains, là-dessus, ils vont peut-être être beaucoup plus efficaces que nous. Pierre Larouille.
Oui, non, je vous écoute.
J'espère que vous nous écoutez avec attention et recueillement.
Avec attention.
Une pointe de condescendance, j'ai l'impression.
Je l'avais un peu perçu comme ça, cet œil un peu...
Pas du tout. Non, pas du tout. Je crois qu'effectivement, l'Europe agit un tout petit peu plus, et en tout cas, ça serait pas mal de mettre ces débats encore plus sur la place publique. Deux, quand on parle des données, ça encore, c'est mon dada, mais je pense qu'il n'y a pas que les données qu'on balance ouvertement sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de données qui sont dans les territoires, dans les départements, dans les villes, partout, où on ne fait pas attention et où il y a une déresponsabilisation encore politique, parce que je pense que beaucoup n'ont pas encore compris du côté positif ce qu'on pouvait faire de ces données. Et de l'autre côté, moi je trouve très bien l'histoire des smart cities et tout ça. Mais enfin, si on est en train, au travers des données, de voir des industriels repiquer via les plateformes de ville une rente de situation qu'on a connue sur l'eau ou sur autre chose, et qu'on est de nouveau dans une exploitation de l'intérêt général, enfin, tout ça mérite qu'on aille effectivement plus au fond. Et c'est pour ça que j'allais un peu à l'encontre de Jean-François en disant, je crois que c'est encore une fois ce récit nouveau de l'individu et du collectif face à cette technologie qui nous ressemble et qui va très vite. Je crois qu'elle repose un débat philosophique extrêmement intéressant et que je pense que c'est au contraire l'avènement d'un beau récit.
Oui, mais en fait, Jean-François a aussi prononcé des mots que j'ai retenus. Débat démocratique, on n'en a pas trop, et puis reprise en main par les politiques. Encore faut-il qu'ils en soient intellectuellement capables et qu'ils en aient la volonté. On ne le sent pas trop aujourd'hui, quand même.
Non, moi, je peux illustrer par un exemple là aussi très local, mais c'est éclairant peut-être. Hein. Nous participions, quand je dis nous, c'est en tant qu'association, Ligue des droits de l'homme, nous participions à un truc qui s'appelait, à Toulouse, qui s'appelait la Commission des libertés publiques, dans lequel... qui était présidé par une universitaire, avec des élus, avec des associations, avec des techniciens, et dans lequel, par exemple, nous avons, à un moment donné, nous sommes interrogés sur les données qui étaient les données qui étaient utilisées par la municipalité et les services municipaux qui concernaient l'ensemble des Toulousaines et des Toulousains. Et on s'est mis à gratter, c'est devenu extrêmement intéressant. C'est énorme. C'est énorme. On a vu, par exemple, que le contrôle de cette chose-là était très limité, que c'était à des moments donnés, mais à la limite, pourquoi pas, mais sous contrôle du bricolage, qui était du bricolage sur des données, qui étaient des données quand même relativement sensibles. Je dois avouer que, après cette courte période sur laquelle on s'est intéressé à ça, le rideau s'est refermé pudiquement sur ce qui se passe derrière. Mais dans une ville, par exemple, comme Toulouse, mais dans toutes les grandes villes, l'ensemble des personnes sont prises dans une série de dispositifs et dans lesquels leurs données sont travaillées et gérées sans ni beaucoup de contrôle, ni à des moments donnés beaucoup d'anticipation sur ce qui se fait.
Je suis tout à fait d'accord, Jean-François. Et c'est pour ça que j'évoque encore le rapport Villani, parce que tout le monde en parle, mais je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait lu. Et je trouve que ce qu'il y a d'intéressant, c'est premièrement qu'il ne tranche pas de manière aussi nette en disant « Youpi, tralala, l'intelligence artificielle, on a gagné ». Il est lui-même, il porte les inquiétudes, il invite à une réflexion et à un débat. Moi, je vois par exemple qu'il y a des choses dont on ne se saisit pas. J'aimerais que l'économie sociale et solidaire s'intéresse à la page 26, je crois, du rapport, où Villani invite à traiter les problèmes de précarité avec l'intelligence artificielle, parce qu'il pense qu'il y a là des capacités d'améliorer un certain nombre de choses. Donc voilà, je crois que dans tout ça, on est en fait sur le vrai sujet, puisqu'on évoquait 68 tout à l'heure et notre cher Herbert Marcuse. Voilà, on est dans le grand débat d'une fracture de la technofinance qui nous oblige à nous repositionner de manière philosophique et politique. Donc je crois beaucoup à ce récit, je suis très optimiste sur la manière dont on va réagir.
Bon, on reviendra sur ce récit, on va passer à d'autres troisième points. On va parler de gens qui sont très loin de se poser ce type de questions, à savoir les Syriens. Une Syrie qui n'est plus un pays, qui est sans dirigeant réel, sans structure étatique, occupée par différents autres pays qui font leurs petites ou grandes affaires, qui, bien sûr, n'ont rien à voir avec l'intérêt des Syriens. Et je pense à la Russie, à l'Iran, à la Turquie, aux Kurdes et à Daesh. Et bien sûr, une population épuisée, laminée, désespérée, et martyrisé par celui qui fut son président et qui est devenu son tortionnaire, et que l'on aimerait bien voir un jour dans les cellules du TPI, ce qui serait encore bien doux pour une engeance pareille. Alors dès lors, que faire ? Fallait-il aujourd'hui intervenir en envoyant quelques bombinettes et puis en tournant la page ? N'est-ce pas beaucoup trop tard ? N'est-ce pas une façon de s'acheter une bonne conscience, tout en démontrant par ailleurs une réelle impuissance ? Faut-il laisser les Russes et les Iraniens dépecer le pays et tester la capacité de réaction du monde occidental en laissant se commettre quelques exactions, comme celle qu'on vient de voir, et qui a amené cette réaction, façon de nous laisser peut-être nous empêtrer dans nos contradictions et peut-être aussi dans nos lâchetés de démocratie molle et gavée. Question de Jean-François Mignard.
Oui, ça c'est pas sympa parce que c'est une question compliquée. C'est une question compliquée parce qu'elle est émotionnelle. Je pense que tout ce qui met une limite à des comportements qui sont particulièrement inhumains est une bonne chose. Voilà, c'est assez pragmatique comme position. Autrement dit, le fait qu'il y ait une opération militaire qui, d'une façon ou d'une autre, puisse aller contrebattre ce qui est en train de se passer, qui est absolument atroce, là, comme ailleurs, alors soyons clairs. Ce qui veut dire que cette question-là peut se poser ailleurs, c'est pas parce que
La question, elle est bizarrement posée. On dit vous pouvez les tuer, mais pas comme ça, quoi. Globalement, c'est ça qu'a dit l'Europe et les États-Unis et l'Angleterre. Tuez-les, mais autrement, quand même, merde, soyez un peu plus correct. C'est ça qu'on a dit, non ?
Non,
je pense. Non, c'est pas ça qu'on a dit.
Alors, moi, je vous parle de ce qu'on a fait.
On a réagi parce qu'il y a eu, justement, de la part de Bachar, l'utilisation de gaz. Sans ça, on aurait laissé continuer ce qui se passe.
Mais ce n'est pas parce qu'on aurait pu laisser continuer ce qui se passe qu'il n'y a pas une justification à cette intervention. La question, c'est Comment se fait-il qu'on laisse faire, là comme ailleurs, un certain nombre de choses, tout en ne justifiant pas la non-intervention par le fait qu'ailleurs, ça existe et qu'on n'intervient pas? Voilà. C'est ce qui me... Dans le débat aujourd'hui qu'il y a autour de cette question-là, moi, j'ai beaucoup de mal à alors, d'abord, le pacifisme absolu et le refus catégorique de la guerre, qui voudrait dire qu'il n'y a pas de guerre juste ou qu'il y aurait des violences qui seraient systématiquement injustes, c'est pas mon truc. Voilà, bon, tout à fait personnellement, là, je suis en train de le dire. Et je pense que c'est, de la même manière, hurler ou pousser au crime, ce genre de choses-là, la BHL, c'est pas trop mon truc. Je pense que l'intervention se justifiait, elle, par rapport à ce que fait Bachar, qu'il va falloir effectivement traiter cette question-là.
Alors, je vais vous poser la question autrement et après on passera la parole à Pierre Larouille. Mais vous avez dit par rapport à ce que fait Bachar, mais est-ce que c'est Bachar qui le fait? Alors, vous savez, quand on parle Russie, on se tourne souvent vers vous dans cette émission.
Oui.
Nous avons reçu une amie russe que vous aviez eu la gentillesse de nous amener.
Oui.
Est-ce que ce n'est pas la Russie tout simplement qui essayait de tester la résistance de nos démocraties pour voir jusqu'où ils peuvent aller? C'est un test, c'est un laboratoire pour lui.
Alors là-dedans, je pense que chacun des acteurs, qui sont multiples, hein, alors ça c'est la géopolitique nouvelle, hein, j'ai envie de dire, on est habitué à l'affrontement de blocs et on ne pense pas encore à des phénomènes géopolitiques complexes. Les acteurs jouent chacun leur rôle dans cette affaire-là. La Russie joue son rôle, qui est... certainement d'un pragmatisme et d'un réel politique assez glacial, mais pas très différent de celui que peuvent avoir les États-Unis, hein, nous en tant qu'Europe, l'Iran joue son jeu, etc. etc. Bien sûr qu'il y a des intérêts à la Russie dans cette affaire-là et qu'ils jouent leur jeu, tout à fait, comme l'ensemble des acteurs. Mais je ne vois pas en quoi, effectivement, ça vient invalider le fait qu'on intervienne pour empêcher le massacre qui est en cours.
Pierre Larouille.
Oui, moi je pense. Je suis assez d'accord, hein, Jean-François, mais je pense tout simplement qu'il n'y a pas eu d'intervention du tout.
Oui, alors.
Voilà, il s'agit.
Les Russes avaient désigné les objectifs.
Voilà, il s'agit des. On a frappé les trois coups, le rideau s'ouvre, voilà. En disant vous avez compris que maintenant, on était décidé à mettre une ligne, effectivement, et surtout à rentrer vers une transition, vers une solution politique. C'est la grille d'entrée. Et d'ailleurs, la manière dont Poutine a réagi,
oui, il a réagi était assez mollement.
Était
il
plutôt
oui,
de cette nature.
On peut dire que c'était préparé. C'était
mais
pas...
alors, très clairement, aujourd'hui, on a l'impression que malgré tout, voilà, on est en train de rentrer vers la seule chose possible, qui est double. C'est une solution politique qui ne peut exister que s'il y a une solution de reconstruction. Parce que ce qu'attendent malgré tout les Syriens en premier lieu... c'est de pouvoir retrouver une vie normale, si on peut appeler ça normal, un temps soit peu humaine. Donc la condition aujourd'hui, elle est qui fédère l'ensemble de la diaspora syrienne qui est éclatée dans le monde et qui est extrêmement riche et qui est porteuse aujourd'hui forcément d'un projet de reconstruction. Comment ce coup d'arrêt est mis pour que tout le monde se mette autour de la table russe, américain, et peut-être que la France, là, a un joker d'une certaine manière, parce qu'elle a une légitimité entre les États-Unis et la Russie, peut-être, pour apporter ce projet de reconstruction, en tout cas, pour apparaître comme un peu équilibré. Et sans doute que l'Europe, là, a une chance à saisir. Donc moi, je veux bien qu'on glose, qu'on discute à la plénelle sur « oui, mais enfin, de quel droit, truc et machin ?»« Oui, mais de quel droit ?» Je suis un peu comme Mignard, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter les choses et dire qu'on passe à une nouvelle étape. Je pense que ça n'a pas fait de dégâts humains colossaux et que ça a été un discours politique bien compris entre 5 interlocuteurs.
Eh bien, on va voir si, effectivement, vous avez raison, si c'est le début peut-être d'autres choses. On ne peut que l'espérer, en tout cas. Alors, dernier sujet, mais qui sera traité rapidement, dernière question, tout le monde en parle. Donc, il n'y a pas de raison que nous en fassions l'économie. Qu'est-ce que vous faisiez en mai 68 et comment vous l'avez vécu? Alors, Jean-François, qui a parlé hier soir à Ombre Blanche, passablement, de mai 68, on a enregistré... On avait un micro qui traînait là-bas, on a enregistré cette émission, on la passera d'ici une dizaine de jours, où on verra, on entendra Jean-François Mignard, on entendra l'ancien correspondant de Libé à Toulouse qui a commis un livre.
J'ai Gilbert Laval.
Voilà, Gilbert Laval, et on parlera, vous entendrez les débats qui se sont instaurés Ombre Blanche autour de ce livre, autour de cette époque. Il y avait pas mal de, je ne vais pas dire d'anciens combattants, parce qu'on en est tous un peu. D'anciens acteurs, voilà, le terme est plus politiquement correct. Alors, mai 68, Jean-François Mignard, ça vous a trouvé où ?
Ça m'a trouvé en quatrième collège, donc... Je n'ai pas fait partie des gens qui, à Toulouse, étaient investis dans le mouvement du 25 avril, même si à la maison, j'avais ce qu'il fallait pour me rendre compte de ce qui était en train de se passer. Mais ça m'a trouvé en collège et ça a été... une période qui est une période dans laquelle où j'étais par ailleurs relativement actif, comme quoi il se refait pas, et où on a pu, je veux dire, où on a pu d'une certaine manière venir contester, interpeller un cadre social, pédagogique, dont peut-être les gens qui vivent aujourd'hui n'ont pas le souvenir, mais qui n'était pas forcément très rigolo à vivre quand on était ado. Voilà. On a transgressé un certain nombre de choses à jeunes ados. Et vécu des trucs qui pour moi, et je pense pour pas mal de gens avec qui j'ai vécu par la suite, ont été très marquants sur ce qu'on a vécu. Voilà.
Pierre Larouille.
Ben moi, comme je suis beaucoup plus vieux que Mignard, enfin, ça s'entend. Hein, bon.
Il faut le savoir.
Moi, j'étais au lycée Pierre de Fermin et j'étais très, très engagé dans les comités d'action lycéens. Et je voudrais vous raconter l'anecdote parce que moi, c'est ça qui m'a marqué en 68. Un matin, effectivement, d'avril, je suis arrivé à Fermat et sur la grande porte cloutée de l'entrée était peint « Maison d'arrêt, section culture ». Et c'est un drôle d'effet, vous savez, ça ressemble un petit peu à Nounours, Nicolas et Pimprenel quand ils envoient ce petit sable pour faire dormir tout le monde. J'ai eu l'impression d'être recouvert par un voile sémantique qui était subitement tombé sur moi. J'utilisais d'autres mots, j'avais l'impression que j'avais trouvé ma langue maternelle, qu'elle me racontait tout ce que je vivais, que j'avais l'habitude de regarder, que tout d'un coup je nommais différemment. Et je me suis aperçu qu'on était un certain nombre à utiliser cette même langue, une sorte d'espéranto qui nous était tombé dessus. Et je crois que voilà, c'est la première chose de 68, c'est une sorte de poésie qui nous était tombée sur les épaules et qui était extrêmement rafraîchissante.
Jean-François.
Et Jacques Lavergne, il faisait quoi en 68 ?
Ben Jacques Lavergne, il était bon, comme je suis le bambin autour de cette table, effectivement. J'étais aussi à Fermat, d'ailleurs, et ma conscience politique n'avait pas encore éclos, donc je regardais tout ça avec un œil un peu surpris, curieux. Voilà, donc je n'ai pas été très actif, moi, contrairement à vous,
alors,
Pierre Larouille.
Puisqu'on fait de la promo de ce salaud de Laval, je me permets de collaborateur de classe de Libération, je me permets alors de citer, je m'autocite, j'ai publié un article, et si 68 décryptait 2018, qu'on trouve encore en ligne sur le Huffington Post, et qui a le mérite, c'est simplement, je ne sais pas parce que je l'écris évidemment, mais je crois que
c'est... Un peu quand même, si.
Si, non mais bien sûr, non, c'est le sujet qui est intéressant, c'est que je crois qu'on a tous les signes pour dire que c'est la même chose, et c'est exactement l'inverse, 68 et 2018, mais c'est une autre histoire.
Allez, pourquoi c'est l'inverse ? Une minute là-dessus. Mettez-nous en appétit pour aller sur le Huffington Post.
Je crois d'abord, une seule phrase, 68 c'était porteur d'une espérance, en réalité, d'une volonté d'entrer dans le système, mais en écartant les murs. Et je crois qu'aujourd'hui, on est très exactement à l'envers, dans une perte d'espérance, et dans une incapacité d'élargir les murs.
Bien, ce sera la conclusion sur nos sujets. Nous allons passer à l'avant-dernière séquence, le « ça va mieux ». Alors, je vais commencer par le mien, parce que j'ai quand même trouvé un. Alors, un « ça va mieux » qui est peut-être, et même très certainement, timide et dérisoire, mais quand même, figurez-vous qu'on a retiré la Légion d'honneur, on est en train de le faire, on retire la Légion d'honneur au boucher de Damas. Donc, encore un gros effort, messieurs les politiques, et peut-être qu'un jour, on va voir... Bachar au TPI, alors pourquoi pas avec
la conscience animale, on va sortir grandir.
Voilà, pourquoi pas avec les politiques français au TPI qui l'ont soutenu, voire le soutiennent encore. Il y a des gens qui sont allés le visiter régulièrement. Il y a des politiques qui sont présentés à l'élection présidentielle qui sont allés effectivement l'encenser. Il y en a un autre qui y va très souvent. Il a un nom qui termine par I. Il flirte un peu avec le Front National. Voilà, il y en a que puis, je crois qu'il y en a eu quelques-uns régionaux, là. Mais bon, peu importe, on ne va pas citer des noms, on ne va pas les livrer à la vindicte publique. Voilà, donc j'ai été satisfait de voir comment on faisait ça. J'espère que ce n'est que le début d'une longue série. Jean-François Mignard.
Alors, ça va mieux. Ça va mieux parce que je ne suis pas sûr que les débats, les interviews politiques des présidents de la République se passent de la même manière depuis le dernier interview qu'il y a eu entre Edwy Plenel et Bourdin. Je dis ça parce que c'est un peu engueulé autour de la table là, sur cette interview un peu de temps. J'ai trouvé... Alors, Je dois avouer que j'ai pas tout subi quand même. Mais j'ai trouvé ça relativement rafraîchissant. Ça change de Michel Droit, de la componction habituelle.
C'était loin de Michel Droit quand même là.
Ah, c'est sûr. C'était brouillon.
On a vu de la hausse aussi.
C'était agaçant parce qu'il y avait des conflits d'égo et des choses comme ça. Mais je trouve que ça risque d'aller mieux. Allez, je prends le pari que ça risque d'aller mieux sur la communication politique et la manière dont on écoute sagement dans les salons, assis sur les divans, le président de la République dérouler ce qu'il a envie de dire.
Est-ce que ce n'était pas une opération aussi de com' pour montrer la pugnacité de quelqu'un qui, sur ce terrain-là, est brillant, hein. Il n'y a rien à dire.
Je pense que c'est comme ce qui se passe en Syrie, chaque acteur joue son jeu, mais je pense qu'au-delà des jeux et des acteurs, ce qui se passe fait d'une certaine manière rupture et je trouve que ça va mieux.
Le « Ça veut mieux » de Pierre Larouille.
L'image était très belle, quand même.
Oui.
L'image des pieds de la Tour Eiffel, franchement...
Du Trocadéro.
Oui, oui. Non, c'était pas mal. Comme j'ai évoqué le cinquième risque tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Je vais aller à contre-courant. C'est un « Ça va mieux » parce que j'ai vu une réponse du CHU de Toulouse à ce qu'on a appelé il y a quelques jours le CHU Leaks, où on a balancé comme ça un tas d'informations. Et je voudrais dire quand même que les journalistes feraient bien de faire attention, parce que quand un hôpital recense tous les petits problèmes qu'il peut y avoir, gros problèmes, mais ça fait partie d'un fonctionnement de tout système et de toute organisation, et je trouve que le fait de les recenser, de les analyser et de les traiter est plutôt un signe de vigilance, et je trouve que mettre ça sur la place publique pour dire que l'hôpital de Toulouse est dangereux, c'est quand même un tant soit peu injuste, pour tout le monde d'ailleurs, aussi bien pour l'hôpital et surtout pour les gens qui y pratiquent.
Alors, il fallait le dire, c'est fait. Dernière séquence, le conseil culturel. Alors, parce que je vais conserver la parole, puisque j'ai le plaisir de la voir. Donc, moi, je vais vous conseiller la lecture de deux petits livres qui sont parus dans une maison d'édition qui est dans le Gers et qui monte, si je puis dire. Le vent se lève, c'est le nom de la maison d'édition. C'est écrit par Jacques Prade, qui est maître de conférence à l'université Jean Jaurès, qui est un spécialiste de l'économie sociale et que nous recevrons au micro de Cap Cap, donc lundi soir, 18h-19h. Oui, c'est ce qu'il m'a dit au téléphone. Hein, il est assez libre, effectivement, et nous le recevrons.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous dites ça.
D'ici une dizaine de jours. Donc, Jacques Prade a écrit Comment résister au capitalisme, tous en coopérative. Et un autre qui s'appelle Comment résiste encore Venise, la leçon des Vénitiens. Et il y a un parallèle entre les deux très intéressant à faire. Donc, nous en reparlerons dans quelques jours avec Jacques Prade.
C'est le début des plateformes.
À ce micro. Voilà. Tiens, Pierre Larouille, puisqu'il a parlé, c'est à lui.
Oui, tant pis. Mais alors, puisqu'on est en 68, un petit signe à nos amis d'Azote Film qui, impulsés par, je crois un peu par Alcouf d'ailleurs ici, oui, sont en train de préparer un film très sympathique sur 68. Et un tout petit mot pour mon ami Jean-Patrick Capdevielle, dont si quelqu'un a la chance d'aller voir les nouvelles œuvres qui ne sont pas du rock, mais qui sont des peintures absolument remarquables. Si j'ai l'occasion de dire où il est exposé, je vous le dirai, parce que ça vaut vraiment la peine.
Ben, dites-le nous, vous ne le savez pas. On le redira
quand ça sera possible.
Oui. On le redira.
C'est un signe amical.
Jean-François.
Juste, alors, pour les anciennes de 68, au passage, quand même, je le dis, les vieilles canailles donnent rendez-vous à tout. Se donnent rendez-vous entre elles et aux nouvelles générations le 25 avril, place du Capitole pour un sitting. Voilà. Mais ça, c'est c'était une annonce qui n'était pas une annonce culturelle, voilà. Mais je vous assure, c'est pas du tout concerté, mais le vent se lève à Job aussi.
Ah.
Voilà. Le vent se lève à Job. Job, c'est un collectif qui est un collectif d'éducation populaire qui a repris le bâtiment qui est le bâtiment amiral, comme on dit, de la papeterie Job. Et tous les ans, il y a un festival qui est un festival de rencontres, de films, de débats. Cette année, c'est du 20 avril et ça termine le 2. C'est du 20 avril, ça termine le 2 mai. Le 2 juin, pardon. Allez-y, ça vaut le coup. C'est réellement de l'éducation populaire et les débats sont riches et intéressants.
Job, c'est le papier à joint, c'est ça ?
Eh bien, nous irons, oui, le papier à joint. Messieurs, merci. Merci Pierre Larouille, merci Jean-François Mignard.
Bonsoir.
C'était une émission de Jacques Lavergne, Ça va mieux, avec toujours aux manettes Jean-Loup Arzac. Merci Jean-Loup. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook Esprit Occitanie, ainsi que sur le site internet de la station. Nous nous retrouverons le mercredi en 15, toujours à 18h, pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Vous retrouverez d'ailleurs cette émission, si vous voulez la réentendre en direct demain sur les antennes de 11h à midi. Belle soirée à toutes et à tous.